18h30, je vous propose de commencer ce conseil municipal du 16 décembre 2016 et comme d'habitude, je vais procéder à l'appel. Alors, monsieur Olivier Bonduel, madame Marie-France Martin-Bagarre, pouvoir à monsieur Jean-Yves de Ripper, monsieur Marc Lerouzic, madame Christine Lamandé, monsieur Jean-Yves de Ripper, madame Janine Le Golvan, madame Françoise Le Pennec, monsieur Charles Vietri, pouvoir à madame Armelle Moreau, madame Marie-Yvonne Belleuil, monsieur Philippe Audot, pouvoir à monsieur Pascal Lejean, madame Catherine Isoard, monsieur Patrick Lotaudet, madame Christine Desjardins, pardon, excusez-moi, monsieur Michel Durand, pour le coup, madame Morgane Petit, monsieur Gérard Marc-Albert, madame Karine Le Déveat, monsieur Hervé Le Donnant, madame Monique Thomas, monsieur Jean-Luc Servet, madame Nadine Rouet, monsieur Pascal Lejean, madame Armelle Moreau, monsieur Loïc Coudoy, madame Sylvie Robineau, monsieur Paul Chapelle, monsieur Olivier Lepic, présent. Nous avons donc très largement le quorum pour pouvoir délibérer. Madame Morgane Petit est toujours la benjamine de ce conseil municipal. Elle est donc toujours la secrétaire de séance si elle en accepte la fonction. Merci Morgane, c'est très gentil de ta part. On commence l'ordre du jour par l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 26 novembre 2016. Et il n'aura pas échappé aux plus attentifs d'entre vous qu'il ne figure pas dans le rapport. Pour cause, il n'a pas encore été achevé et donc on le validera lors du prochain conseil municipal. On passe donc directement au point 2, le compte rendu des décisions du maire prises en vertu des délégations du conseil municipal. Et vous avez donc un certain nombre de décisions du maire numérotées de 162 à 175 pour lesquelles, j'imagine, il y a peut-être des questions. Monsieur Lerouzic.
J'aurais une explication sur le 169.
Le 169, très bien.
Contrat de mise à disposition d'emballage à gaz. Qu'est-ce que c'est ?
Monsieur Marc-Albert.
Ou de gaz, oui.
C'est l'allocation de gaz pour les soudures au garage.
J'imagine que c'est du gaz
oui, c'est des bouteilles
très particulier.
De gaz, voilà, pour la soudure.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions sur ces décisions du maire ? Je vous remercie. On passe au point numéro 3. Monsieur Pascal Lejean, le budget principal de la commune 2016, la décision modificative numéro 3.
Alors, vous avez eu tous un petit document avec un rectificatif que vous pouvez avoir au dos, qui est souligné en jaune. Donc, juste par rapport à ce que vous avez pu avoir pour le conseil. Donc, une petite modification, ce sont pour des logiciels. Donc, il n'y a pas d'impact sur le budget. C'est un transfert des montants pour 3 000 euros. Est-ce que vous avez des questions ?
Pas de questions sur cette décision modificative numéro 3 ? Je passe donc au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On passe à la délibération numéro 4, toujours une délibération financière, cette fois-ci sur le budget principal et annexe du musée. Toujours
oui,
monsieur Lejean.
Comme tous les ans, à la fin de l'année, on vote la possibilité, ce qu'on appelle la DBS, de voter la possibilité, avant de voter le budget, de pouvoir voter des investissements qui seront réalisés, potentiellement réalisés, sur le début d'année. Donc, la loi nous permet de pouvoir investir jusqu'à un quart des montants prévus au BP de l'année passée, c'est-à-dire de 2016. Vous avez aujourd'hui le détail. Donc, le quart se monte à 1 million. Pour bien parler clairement, on pouvait aller jusqu'à 1 million 6. Et on vous propose d'inscrire à la DBS un montant de 987 000 euros.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération qui est délibération quasi annuelle ? Pas de questions, je vous remercie. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On passe à la délibération numéro 5, subvention à l'association La Règle du Jeu, monsieur Loïc Coudoy.
Alors, il s'agit de... En fait, l'association Le Règle du Jeu sollicite une subvention municipale pour organiser les 17e rencontres cinématographiques de Bretagne qui auront lieu donc à Carnac du 24 au 28 janvier 2017. C'est une manifestation qui est organisée tous les 4 ans sur la commune. Et donc la participation financière qui est demandée est de 3 000 euros.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ? Madame Le Golbin. Micro.
L'association La Règle du Jeu, elle est située où?
À Landivisiau.
Ah, d'accord.
Ouais. Et en fait, les rencontres ont lieu une fois par an sur les 4 départements bretons. Et donc, ça tourne tous les 4 ans.
Pas d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. On passe au rapport numéro 6, la demande de renouvellement d'exploiter les jeux. Monsieur Lejean, du casino de Carnac.
Donc, le nouveau propriétaire du casino de Carnac nous a fait une demande de renouvellement pour les jeux. Pour les machines de jeu. Et donc, vous avez la liste derrière, dont entre autres les nouveaux investissements qu'ils souhaitent faire.
Est-ce qu'il y a des questions sur ces. Est-ce qu'il y a des spécialistes des jeux pour nous apporter quelques détails? Apparemment, ce sont des machines. Dernier cri, c'est ça, monsieur Lejean?
Tout à fait. Hein. Bon, il y a le renouvellement des machines existantes, hein, donc, qui vont de 75 avec un peu plus, puisqu'il faut savoir que le casino de Carnac exploite 75 bandits manchots, qu'on appelle ça, enfin machines à sous, et pendant l'hiver, et va jusqu'à 100 machines pendant l'été, et fait une demande pour aller jusqu'à 120 maintenant. Plus les nouvelles machines qu'il met dedans, où vous avez le détail que je ne suis pas un spécialiste de Sud Poker et ainsi de suite, donc j'aurai du mal à vous donner des détails. Je reconnais.
Je crois que ce n'est pas plus mal que l'adjoint en finance de la commune ne joue pas trop au casino. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Pas de questions? Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe à la délibération numéro 7, des travaux de défense à la mer, et plus particulièrement des marchés de maîtrise d'œuvre de renfort du trait de côte pour la brèche ouest et la brèche est de Carnac-Plage. Donc vous le savez, l'État a identifié dans le cadre du PPRL deux brèches sur la Grande Plage, l'une dans le secteur est, l'autre dans le secteur ouest. Et l'objet de cette délibération est donc de vous demander d'approuver les projets de travaux de défense à la mer, tels que définis à l'enveloppe prévisionnelle que vous avez sous les yeux, avec des montants de 460 000 euros hors taxes, soit 552 000 euros TTC, et donc d'autoriser le maire à engager une consultation de maîtrise d'œuvre sous la forme d'une procédure adaptée et à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Vous le savez maintenant, puisqu'on en a parlé à de nombreuses reprises, dans ce dossier, il y a un pendant juridique, évidemment, qui consiste à réaliser des travaux pour ensuite rentrer dans une procédure de révision de ce PPRL. Mais il y a un autre versant qui est pour moi le plus important, hein, c'est celui de la sécurité des biens et des personnes. Sur le premier volet juridique, évidemment, on est dans un dossier extrêmement complexe, vous l'avez compris, puisqu'on a d'une part une DGPR qui n'est pas très encline à écrire noir sur blanc qu'une fois ces travaux réalisés, on pourra rentrer dans une procédure de révision, et d'un autre côté, la même DGPR qui nous signifie que nous avons un risque majeur de submersion par ces deux brèches. Donc elle a une démarche un petit peu schizophrène, cette DGPR, puisqu'elle met un petit peu les élus dans une situation impossible. D'un côté, on nous dit il n'est pas certain que quand vous aurez réalisé les travaux, que vous puissiez rentrer dans une procédure de révision, même si cette procédure de révision est possible, et d'ailleurs elle m'a été décrite précisément par les services de la préfecture, et d'un autre côté, il nous retarde dans la perspective, qui est encore une fois la perspective la plus essentielle, qui est de protéger les Carnacois. Donc, je pense que mon rôle de maire, puisqu'il pèse une responsabilité évidemment importante sur le maire, hein, elle peut être pénale, on l'a vu à la faute sur mer, c'est de réaliser ces travaux le plus rapidement possible pour protéger les biens et les personnes et les Carnacois. Et c'est donc dans cette optique, eh bien, que je demande aujourd'hui au conseil municipal d'approuver cette délibération, parce que ce qu'il convient de faire, c'est effectivement d'empêcher la réalisation physique d'une éventuelle brèche et d'une submersion marine à Carnac-Plage. Et plus rapidement nous aurons réalisé ces travaux, eh bien, plus rapidement les Carnacois sont protégés. Il est évident que, et j'en ai bien conscience, qu'il y a un certain nombre de prévention et d'incertitude juridique qui continue de peser sur ce dossier. L'État a bien du mal à nous répondre, hein, que ce soit sur le PAPI, sur la GEMAPI et l'ensemble des dispositifs juridiques qui sont extrêmement mouvants, et c'est vraiment un problème pour les communes. Et donc, autant on a une certitude que ces travaux permettront d'effacer les brèches, autant on n'a pas une garantie effectivement à 100% que ces travaux permettront d'entrer dans une révision du PPRL, mais je crois encore une fois que le jeu en veut la chandelle dans la mesure où notre préoccupation essentielle et principale doit être la protection des biens et des personnes, et c'est pour cette raison que je souhaite que le conseil municipal adopte cette délibération et que nous puissions, dans le cadre de la rénovation du boulevard de la plage, eh bien, entamer ces travaux le plus rapidement possible pour protéger les Carnacois. Voilà ce que j'avais à dire sur ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Lerouzic.
Je voulais compléter vos propos et puis dire aussi ce que nous pensons. Donc, nous avons toujours défendu l'idée que l'objectif premier d'un PPRL...
Alors vous parlez en votre nom de votre groupe, monsieur Lerouzic, ou en l'ensemble de l'opposition ?
L'ensemble de l'opposition.
D'accord, ok, non, parce que ce n'est pas toujours très clair. Donc...
C'est parfaitement clair.
D'accord, bah, clair. Une fois qu'on a posé la question, oui.
Donc nous avons toujours défendu l'idée que l'objectif premier d'un PPRL était d'assurer la sécurité des biens et des personnes en dehors de toute considération économique. Il n'est donc pas question pour nous de nous opposer à des travaux qui ont pour but de renforcer le cordon dunaire et la protection de Carnac Plage. Nous voulons quand même faire quelques remarques sur le fond et sur la forme du texte que nous allons voter. Dans le préambule, le maire réaffirme l'improbabilité d'une défaillance et d'une brèche. Vous me paraissez bien informé pour avancer de tels propos. Pourtant, la tempête Cynthia a eu ses conséquences. Improbable, ça veut dire invraisemblable, et c'est invraisemblable, pourquoi faire les travaux ? Dans cette logique, la seule justification des travaux de renforcement est de permettre une révision et un assouplissement du PPRL. Ce qui suppose une procédure précise qui repose sur la validation préalable et écrite du projet par les services de l'État. Ce document existe-t-il ? Vous vous êtes déjà exprimé là-dessus, mais peut-être que vous nous en direz plus tout à l'heure. Et si oui, pourquoi n'est-il pas annexé à la délibération ? Il sera quand même regrettable qu'après avoir réalisé la rénovation du boulevard de la plage, on s'aperçoive, faute d'un engagement incontestable de l'État, que les travaux de renforcement soient insuffisants pour réviser le PPRL. Il aurait d'ailleurs été plus logique de voter la maîtrise d'œuvre des travaux de renforcement avant celle du boulevard de la plage. Il faut aussi savoir que l'enveloppe prévisionnelle des travaux n'inclut pas le déplacement de la conduite de la thalasso. Ni le coût de la maîtrise d'œuvre, ni le coût des études réglementaires obligatoires, ni le coût des études géotechniques. Le coût total du chantier serait peut-être proche des 800 000 euros, si tout se passe bien. Il ne faut pas oublier non plus que ce type de travaux nécessite dans la plupart des cas une étude d'impact, et qui dit étude d'impact dit enquête publique. Il n'est pas non plus prévu d'engager les travaux nécessaires sur le chenal et le tablier de Port-Andreau, du pont de Port-Andreau, qui sont pourtant un peu plus fragilisés à chaque tempête. Et les services techniques pourront l'approuver, puisque donc il arrive qu'ils sont obligés de reboucher les trous, les nids de poules qui se forment après chaque tempête avec du goudron de chaque côté du chenal.
J'avais pas vu. Non, mais je ne peux pas. D'abord, effectivement, on a une incapacité de la part de l'État de nous signifier de manière écrite, parce qu'ils ne veulent pas le faire, pour des raisons qui tiennent au principe de précaution, que sa réalisation de ces travaux entraînera de manière mécanique une révision du PPRL. C'est une évidence, et malgré nos demandes à de nombreuses reprises, l'État se protège et nous met dans cette situation que je décrivais d'un peu schizophrène. Et il est évident qu'aujourd'hui, on n'a pas de certitude. Évidemment, on va aussi faire en sorte... Alors, pourquoi je pense que ces brèches n'existent pas ? Ce n'est pas moi qui le dis, M. Lerouzic. Je suis bien incompétent en la matière. Je ne suis pas ingénieur hydrologue. On a fait, vous en souvenez, fait travailler un cabinet sur la question. Et je me réfère à ces conclusions quand je dis que ces brèches sont improbables. Néanmoins, encore une fois, il y a une partie d'incertitude, hein, et même si la signature du cabinet que nous avons utilisé est une signature extrêmement reconnue, mondiale, aujourd'hui, que dirait-on, que dirait un Carnacois si, par malheur, ce cabinet avait des conclusions erronées et que, tout à coup, une submersion marine se produisait à Carnac dans les années qui viennent? On dirait, mais qu'a fait la mairie et pourquoi, alors que le cabinet de l'État avait identifié ces brèches, pourquoi le maire n'a pas réagi? Et donc, encore une fois, ma préoccupation, mais... c'est aussi la vôtre, c'est ce que j'ai entendu, c'est de sécuriser les biens et les personnes. Donc nous allons faire ces travaux. Nous allons faire ces travaux, évidemment, en étroite collaboration avec les services de l'État. Hein, c'est déjà ce qui a été fait, puisqu'on a eu On a eu plusieurs réunions avec la DDTM. On va également réaliser ces travaux en les dimensionnant d'une façon qui va permettre d'aller bien au-delà de la protection contre l'aléa syntonal. Et c'est ce qui aujourd'hui est prévu, c'est-à-dire qu'on va, on va surdimensionner les ouvrages avec une marge de sécurité relativement importante pour que cette disparition des brèches soit totalement incontestable pour le plus pointilleux des ingénieurs. Donc, on a évidemment aussi, et vous l'avez vu puisque vous relevez de temps en temps les dépenses, on a aussi un cabinet d'études, on a aussi un avocat dont on s'est évidemment enquis des services pour sécuriser cette décision et ce renforcement du tribunal. Mais effectivement, on est un petit peu un laboratoire parce qu'on est une des premières communes à se lancer dans ce type de travaux et que l'État est extrêmement prudent et fait jouer avec pas beaucoup de courage d'ailleurs le principe de précaution et ne prend aucune décision susceptible de lui faire porter une responsabilité. Donc le problème qu'on a face à nous, c'est un État qui dit « je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non ». Mais on ne va pas attendre, parce que je pense que, encore une fois, ce qui est important, c'est la sécurité des biens et des personnes. Donc on va faire ces travaux, et puis on va faire en sorte qu'ils soient le plus adaptés pour être reconnus par les services de l'État, en les surdimensionnant. Et derrière, on se battra, comme on s'est battu depuis le départ, pour essayer de les faire prendre en compte par la DGPR, par la DDTM, par l'ensemble des services, avec toutes les dimensions que vous avez évoquées. Évidemment, c'est pas une certitude, j'en ai bien conscience, et je le dis en toute humilité devant le Conseil municipal, on n'a pas de certitude dans le dossier, mais depuis le départ, on n'a pas de certitude dans ce dossier.
Qu'en est-il du chenal de Port-Andreau ?
Alors, le chenal
Parce que
de
vous
Port-Andreau...
savez que les fines...
Oui, tout à fait.
Par le sous-sol.
Le chenal de Port-Andreau fait l'objet d'entretiens réguliers. Il y a même aussi un projet, et on sera amené à en parler, de brise-lames dans ce chenal, puisqu'en fait, le problème que pose ce chenal, c'est qu'à certains moments et à certains gros coefficients avec des vents de sud, on a des trains de houle qui pénètrent dans le chenal et qui ont la particularité de dissiper une énergie énorme dans le port de Port-Andreau et dans le goulot d'étranglement qui constitue l'entrée du port. Et donc, on constate effectivement beaucoup de dégâts. La seule solution aujourd'hui acceptable et celle qui nous est proposée par les ingénieurs, en l'occurrence par Artelia, c'est la construction d'une porte qui serait susceptible, en cas d'événement de ce type, eh bien, d'être refermée et de briser totalement le train de houle qui s'engouffre dans le petit port. Aujourd'hui, c'est la solution vers laquelle on s'oriente. Je dirais que techniquement, l'étude, elle est quasiment réalisée. Maintenant, il faudra décider à un moment ou à un autre en fonction des priorités, mais je crois que les deux brèches sont vraiment les priorités numéro un. Il faudra décider effectivement de faire ces travaux qu'il faudra, vous avez raison, faire un jour.
Ces portes existent dans d'autres communes, comme à Saint-Quart-Fortrieux, ils ont mis ça en place depuis déjà très longtemps. Ouais. Mais par contre, Carnac a une particularité, les eaux pluviales de Carnac-Plage et venant du Brenneau se jettent dans le Port-Andreau. Est-ce qu'ils mettent un dispositif pour évacuer comme les eaux pluviales à marée basse?
Alors bien sûr, d'abord c'est un dispositif qui est mobile et qui est très facilement mobile, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir et le fermer en fonction des heures et de la marée, donc il n'a pas vocation à rester fermé, je dirais, pendant des très longues heures, il peut être manœuvré, et donc on peut envisager un dispositif qui, au moment de la marée basse, même en cas d'aléa, peut être réouvert pour évacuer le surplus du petit port de Port-Andreau et notamment les eaux pluviales. Et par ailleurs, je pense que le jour où on mettra en œuvre la réalisation, les ingénieurs nous feront des préconisations pour effectivement, dans le cas d'un aléa ou d'un problème technique sur la porte qui sera amené à rester fermée très très longtemps, qu'on ait une façon d'évacuer le trop-plein d'eau pluviale dans le port. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres remarques, de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. C'était un sujet effectivement important pour la commune. On passe au rapport numéro 8, Monsieur Servet, sur le restaurant Colère et plus particulièrement l'approbation du projet et du lancement de marché de maîtrise d'œuvre.
Tout le monde sait que le restaurant actuel est vétuste et obsolète, qui fait l'objet effectivement de remarques diverses de la direction départementale de la protection et population. Depuis environ 2 ans, on a eu de nombreux débats autour du projet de construction d'un nouveau restaurant. Plus récemment, l'école et le collège Saint-Michel ont fait le choix de construire leur propre restaurant sur leur site propre. Et donc, à la suite de quoi, nous proposons de construire un nouveau restaurant scolaire sur le site de l'école publique des Korrigans, sur la base des éléments de programme suivants, résumés, puisqu'ils ont été présentés et les échanges ont eu lieu lors de la réunion des deux commissions aménagement, cadre de vie et vie citoyenne, éducation jeunesse de la semaine dernière. Donc les repas sont prévus d'être intégralement préparés sur place et le bâtiment comprendra donc bien évidemment les espaces de cuisine, locaux techniques qui seront nécessaires à leur production. Le restaurant sera dimensionné pour accueillir les élèves en période scolaire, bien sûr, les enfants qui fréquentent le centre de loisirs et le personnel enseignant et accompagnant hors période scolaire. Le réfectoire, les espaces attenants, hall sanitaire, etc. devront présenter une capacité d'accueil globale de 200 personnes. Dans un souci de rationalisation, le bâtiment pourra comprendre une salle multifonction qui permettra notamment d'accueillir certaines activités du centre de loisirs. Il s'agit bien sûr et très clairement d'une option qui sera prévue d'être chiffrée et qui sera retenue ou non après chiffrage en fonction des coûts. Et bien sûr, le programme de l'opération intégrera les circulations entre les écoles et le restaurant sur le site donc attenant à l'école des Korrigans, primaire et maternelle. L'enveloppe prévisionnelle du programme de travaux est estimée pour les travaux du restaurant scolaire et les circulations extérieures à 1,050 000 TTC et pour les travaux de la salle multifonction optionnelle à 200 000 euros TTC. Donc, au vu des avis favorables émis par les commissions aménagement, cadre de vie et vie citoyenne, éducation, jeunesse du 8 décembre dernier, il est proposé au conseil municipal d'approuver le programme de travaux de construction du restaurant scolaire et son enveloppe prévisionnelle et d'autoriser, bien sûr, le maire ou l'adjoint délégué à engager une consultation de maîtrise d'œuvre sous la forme d'un marché passé selon la procédure adaptée et à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.
Merci, Monsieur Servet. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur cette délibération ? Monsieur Bonduel.
Donc, j'interviens pour l'ensemble des deux groupes.
D'accord.
Pour que les choses soient bien claires.
C'est bien.
Nous ne sommes pas d'accord sur la phraséologie employée pour la rédaction du premier paragraphe de ce bordereau. En effet, lorsque vous écrivez, je cite, « De nombreux débats ont eu lieu autour du projet de construction d'un nouveau projet et l'école et le collège Saint-Michel ont fait le choix de construire leur propre restaurant scolaire dans l'enceinte de leur établissement », vous sous-entendez, monsieur le maire, que ce choix a été fait librement sans contrainte et qu'aux yeux de tous, cette situation ubuesque serait de la seule responsabilité du groupe scolaire Saint-Michel. En fait, la réalité est tout autre. Au fil des réunions préparatoires, très astucieusement conduites, le projet de construction du nouveau restaurant scolaire sur le terrain des Haras est venu s'imposer. Bien que l'école Saint-Michel ait au tout début des conversations acquiescé cette option, il s'est avéré rapidement que ce choix géographique présentait l'inconvénient d'obliger les plus petits à parcourir une distance trop importante, particulièrement par temps de pluie. Et tout le monde ici sait qu'il ne pleut pas beaucoup en Bretagne. Voilà pourquoi, devant l'obstination d'un autre temps, le groupe scolaire Saint-Michel a dû, contraint, étudier une solution propre. Malheureusement, ce dossier du nouveau restaurant scolaire rebaptisé restaurant municipal est devenu un dossier clivant, perdant-perdant. Perdant, en effet, fini l'esprit de concorde, insufflé il y a de nombreuses années permettant aux petits carnacois de l'école libre et de l'école publique, de pouvoir se côtoyer, se connaître, s'amuser ensemble et de créer ainsi, dès leur plus jeune âge, les conditions d'appartenance à une communauté unique, celle de Carnac. Perdant sur le plan économique, car diviser le flux financier en deux cellules économiques va entraîner des déficits d'exploitation importants et chroniques. Car comment équilibrer une exploitation avec 130 élèves ? Pour l'école publique, cela ne posera aucun problème, car les coûts seront noyés dans la masse budgétaire de la commune. En revanche, pour l'école d'en face, la partie n'est pas gagnée. Il leur faudra gérer au plus juste, sans manne extérieure. Perdant pour les finances de la commune. Le projet de construction du nouveau restaurant communal risque fort de connaître quelques vicissitudes. Il est prévu que le dossier en l'état coûtera entre 1 et 1,5 million, suivant les options, mais la facture finale pourrait bien dépasser cette prévision au vu des difficultés liées à la pente du terrain et son enrochement. La charge d'amortissement par repas servi serait alors hors de proportion. Sans parler de la reconversion de l'ancien restaurant scolaire, pour lequel aucun projet d'avenir nous a été présenté. Fermé, clôturé, un appendice en ruine en plein centre de Carnac rappellera aux Carnacois à chaque fois qu'ils passeront devant qu'ici a eu lieu un épisode pas très glorieux de la vie communale. Je vous remercie.
Alors, d'abord, et ce n'est pas la première fois, vous faites parler l'école Saint-Michel, ce qui n'est pas un procédé assez courant, puisque l'école Saint-Michel, ses représentants, le GEC, l'APEL, se sont exprimés sur le dossier à de nombreuses reprises dans la presse. Ils ont même d'ailleurs fait une conférence de presse pour infirmer des propos que M. Lerouzic avait tenus sur cette question. Donc, moi, je m'en tiens... Et je respecte parfaitement votre avis, hein, mais je m'en tiens à l'avis des écoles, qui sont, et notamment l'école Saint-Michel, qui est gérée de manière indépendante, souveraine, par des associations dans lesquelles il y a eu un débat, des associations qu'on a rencontrées, je parle sous le contrôle de M. Chapelle, puisque c'est lui qui s'est occupé un petit peu plus que moi du dossier à de très, très, très nombreuses reprises. Hein, je pense que entre 10 et 20 réunions, on a échangé, qu'aujourd'hui, je constate que il n'y a pas d'acrimonie, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de reproche de la part de l'école sur ce dossier. Je constate également aussi que M. Lerouzic a voté un certain nombre de dispositions dans l'école qui vont permettre la réalisation de ce restaurant scolaire et que effectivement l'école Saint-Michel aurait pu choisir de se rendre sur la cantine que nous allons construire sur le terrain des RA. Ça n'a pas été son choix et à aucun moment il n'y a eu ni contrainte ni et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que ce dossier, vous l'avez constaté, qui était une priorité pour la commune, on a mis, et je le concède, un peu de temps à le sortir parce qu'on voulait absolument que tout le monde soit d'accord et que les gens puissent prendre le temps de cheminer vers la solution qui la semblait la plus pertinente pour la commune et pour les écoles. Donc aujourd'hui, cette solution, elle a des avantages, elle a des défauts. Je pense que financièrement, et c'est évidemment la plus économe de l'argent du contribuable carnacois, ça a également le mérite, puisque... ça va permettre aux enfants d'avoir peu de trajets, que ce soit pour l'école Saint-Michel ou pour l'école publique, que par ailleurs, moi j'ai toujours entendu le directeur, les enseignantes de l'école Saint-Michel me dire que pour l'école, l'attractivité était renforcée avec une cantine à l'intérieur, parce que c'est vrai que les parents ne sont pas forcément ravis de voir les tout-petits traverser des routes, même si c'est assez sécurisé, parce qu'il y a la police municipale. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel les enseignantes nous ont dit qu'elles étaient particulièrement sensibles. Et le fait de ne plus avoir deux fois par jour, de faire l'aller-retour en sortant de l'école avec des tout-petits, c'est aussi un argument qui a contribué à faire en sorte que l'école Saint-Michel a décidé, puisque c'est l'école Saint-Michel qui a décidé cette solution. Donc encore une fois, elle n'est peut-être pas parfaite, mais je pense que c'est la plus économe de l'argent du contribuable carnacois, et j'y suis, et nous y sommes très très sensibles. Par ailleurs, je ne crois pas que la capacité des enfants de Carnac à être ensemble, que ce soit dans d'autres activités, à la voile, au football, puisque maintenant nous n'avons plus qu'un seul club de football, là où on en avait deux avant, un laïc et un religieux. Je ne crois pas que les enfants à Carnac ils se voient beaucoup dans d'autres activités, et c'est vrai que c'était un moment sympathique, hein, j'entends votre argument, hein, monsieur Bonduel, mais bon, je pense que la sécurité prime avant ce genre de considération. Et je pense que, encore une fois, c'est le choix des écoles, sans aucune contrainte. Et si on a pris autant de temps pour arriver à cette conclusion, c'est parce que, justement, on voulait vraiment être certain que Saint-Michel était d'accord. Donc, je préférerais plutôt que vous parliez au nom de Saint-Michel, de laisser Saint-Michel s'exprimer. Et Saint-Michel s'est exprimé à de nombreuses reprises, que ce soit l'OGEC, l'appel. Et je crois qu'il y a eu des votes sur le sujet, parfaitement démocratiques et transparents. Donc moi, je m'attache à cette procédure qui a été une procédure longue, avec la concertation à tous les moments et à tous les étages de ce processus. Madame Le Gaulois.
Oui, il existe peut-être une solution plus économe, parce que le projet que vous présentez nous semble inadapté et d'un coût disproportionné à l'enjeu. Une autre solution plus rationnelle et utilisant les moyens existants nous semble plus adaptée au nombre de repas très réduit qui devra être servi par le restaurant scolaire. Pourquoi ne pas augmenter la capacité de la cuisine du foyer logement pour la transformer en cuisine centrale qui pourrait préparer les repas à la fois pour le foyer logement, le service d'aide à domicile et le restaurant scolaire? Cette solution évite un investissement trop lourd et un recours à du personnel qui fera double emploi. L'investissement nécessaire, puisqu'on nous a demandé de réfléchir, pourrait être financé par une partie de l'héritage CARE0. On peut même aller plus loin et créer une extension au foyer logement qui permettrait d'accueillir pour les repas les jeunes et les anciens dans le cadre du fil rouge intergénérationnel que l'on a lu dans le bulletin municipal. Le terrain nécessaire est disponible et les écoles sont très proches géographiquement du foyer logement, puisque les écoles, si on fait une ouverture par foyer laïque, on est tout près en fait du foyer logement. Et j'aimerais poser une question après mon intervention, c'est qu'en est-il aussi de l'achat du terrain de l'école Saint-Michel?
Première chose, je m'étonne que malgré le nombre de débats que nous ayons eu, que vous posiez cette proposition sur la table. Pourquoi vous ne l'avez pas soumise avant, Madame Le Gaulois?
Si, on a déjà soumis le fait de mutualiser.
Mais si vous ne parlez pas, on ne peut pas vous écouter, parce que quand on ne parle pas, on ne peut pas être entendu. Donc, quand on a une proposition à faire, il faut la faire. Donc, moi, je découvre cette proposition-là après 3 ans. Je parlerai ensuite la parole à Paul et à Jean-Luc. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ça voudrait dire qu'il faudrait faire donc une liaison chaude entre l'éventuelle cantine que nous construirions au foyer logement et les écoles. D'accord, donc on ferait manger les enfants dans la salle du Hara, et donc on ferait livrer de la...
Le projet, non, se situerait tout au foyer logement, c'est-à-dire une extension du restaurant.
Alors qu'il faudrait amener les enfants là-bas?
Mais c'est très facile. L'école, il faut savoir que l'école des Corrigans donne directement sur le foyer laïque, en faisant une ouverture, et vous arrivez, vous êtes à quelques pas...
Et Saint-Michel?
Ah, j'ai pas parlé de Saint-Michel, puisque le projet, de toute façon, est fait. Vous l'avez dit.
Donc, si j'entends bien, M. Bonduel, il y a quelques instants, reproche dans le projet initial que l'on proposait il y a 2 ans d'avoir une cantine pour l'ensemble des 2 écoles et collèges, reprochait le déplacement des élèves de Saint-Michel jusqu'au terrain des Haras. Et aujourd'hui, vous voulez favoriser le déplacement des élèves des Corrigans jusqu'au foyer logement. Ah. Non. Je croyais avoir été clair. Je veux recommencer.
Oui. Mais quel est le problème? Oui, je...
C'est-à-dire que, si je comprends bien, il risquait de pleuvoir sur les élèves de Saint-Michel entre Saint-Michel et le terrain des Corrigans. Par contre, il ne risque pas de pleuvoir entre les Corrigans et le foyer logement sur les élèves des Corrigans. J'ai résumé?
Je pense que c'est pas le... Vous détournez, en fait,
je
le
détourne
le,
pas.
Le projet,
plus sérieusement, dit plus sérieusement. Non, je fais éventuellement... Monsieur Bonduel, je fais éventuellement de l'esprit. Non. Ce que je veux dire... Mais non, je dis... Attendez. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, vous dites il faut agrandir, il faut créer des locaux au foyer logement pour accueillir les élèves. Éventuellement, il faut agrandir la cuisine. Donc, en quelque sorte, ce qu'on propose de construire en indépendance sur le terrain des Haras vous voulez le construire, finalement, lié au foyer logement. Mais dans les deux cas, c'est une construction. Dans les deux cas, il faut une extension de cuisine. Dans les deux cas, il faut une salle. Parce que quoi qu'on en dise, quand il y a entre 150 et 200 repas à servir en instantané, il faut bien une salle pour ça. Donc il faut construire une salle, il faut du personnel, il faut construire un agrandissement de la cuisine.
Pour l'instant, on a déjà proposé, monsieur le maire, je réponds quand même à la question de monsieur le maire, on a déjà proposé de faire en sorte que la cuisine du foyer logement soit en mutualisation pour les repas, pour le service d'aide à domicile, pour les enfants et pour le foyer logement. Par contre, on avait demandé justement à vérifier que la capacité, enfin, quelle capacité la cuisine actuelle avait. On l'a déjà posé cette question, on n'a pas eu de réponse. Donc là, on a déjà fait cette proposition.
J'entends la proposition.
Quand vous dites, monsieur Servet,
c'est un peu tard, mais bon.
Que c'est... Ben, vous l'entendez, ben, vous n'avez pas écouté auparavant, c'est tout, c'est ce que je veux dire. Quand monsieur Servet me dit création, oui, création, vous le faites sur les rats, mais une extension n'est pas une création. Et quelque part, on n'a pas mesuré... Là, on vient juste, on a demandé pour la cuisine, on n'a jamais eu les chiffres, on n'a jamais su pour quel nombre de personnes elle était dimensionnée. Peut-être qu'on peut servir jusqu'à 200, voire plus de repas, mais ça, on n'a jamais eu les chiffres. On ne l'a pas vérifié. Si on l'avait vérifié, au moins, on saurait s'il fallait l'agrandir ou pas. Au niveau du restaurant, on voit bien, ce midi, on y était, donc, puisque c'était le repas de Noël des anciens. C'est sûr que d'accueillir en même temps les enfants et les personnes âgées, c'est sûrement le lieu est un peu étroit, mais pourquoi pas? Dans votre bulletin municipal, et moi j'y tiens aussi, on parle de lien intergénérationnel. Bah, je pense que l'idée est bonne.
Enfin, je ne vais pas rentrer dans ce débat, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps, mais il y a une différence entre lien intergénérationnel et mettre dans une même salle de restaurant des personnes âgées qui ont leur rythme de vie, leur calme, leur typologie de repas, et des enfants qui ont leur rythme de vie, leur façon de se déplacer, de bouger, etc. Donc attention, dans la notion de lien intergénérationnel, il ne faut pas que ça devienne...
Je suis pas sûr que d'un point de vue sanitaire, la DAS nous autoriserait à ce genre de choses. Je pense que voilà, les enfants qui trimballent des virus de la grippe, des rhinopharyngites et tout ça, dans un foyer logement, je pense que ça pourrait éventuellement poser des problèmes. En tout cas, bon, voilà, de toute façon, c'est une proposition. Hein, c'est dommage qu'elle n'ait pas été exprimée plus...
Elle a été exprimée, monsieur le maire. Vous ne l'avez pas entendue, c'est pas pareil.
Je pense que... Bon, alors, écoutez, voilà, je ne l'ai peut-être pas entendu, mais écoutez, je pense qu'elle n'a pas dû être exprimée de manière suffisamment forte et avec beaucoup de conviction, parce que sinon, je pense qu'on l'aurait entendu, même si je pense que ce n'est pas une solution. Il y avait une autre question. Ah oui, dernière chose, avant de passer la parole à M. Chapelle sur le terrain de Saint-Michel. Évidemment, il n'est pas question que l'actuel restaurant scolaire reste une friche, M. Bonduel. On ne va pas laisser ce bâtiment se délabrer, et on va être amené à travailler sur le sujet très très rapidement, puisque maintenant que nous avons cette décision, et je pense qu'on, sans révéler de secret, on a déjà commencé à réfléchir au sujet, et dans les commissions, vous serez amené à réfléchir au sujet. Et d'ailleurs, Madame Le Golvan, cette fois-ci, si vous avez des propositions, n'hésitez pas à les faire très en amont de cette réflexion, de manière à ce qu'on puisse les entendre et éventuellement les intégrer.
Vous voulez toujours avoir le dernier mot, mais... On vous a fait, il y a déjà 2 ans, cette proposition. On pouvait vous ressortir même ce qu'on avait écrit. Hein.
Je dois être dur de la feuille. Monsieur Bonduel.
Si vous nous demandez de faire des propositions, c'est parce que vous êtes un peu sec.
Ah non, pas du tout. Bah, attendez, vous faites des propositions qui n'êtes pas entendues. Et puis là, je vous dis, bah, faites des propositions. Et là, maintenant, je suis sec. Non, je ne suis pas sec. On a déjà des idées, vous verrez.
Je voudrais revenir tout à l'heure sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur les comptes d'exploitation. Parce que finalement... Moi, je ne parle pas au nom de Saint-Michel. Je ne suis pas habilité pour parler au nom du collège.
Bah, c'est ce que vous avez
en revanche, en tant que conseiller municipal, sincèrement, ce projet-là m'inquiète parce que je pense que ça va nous coûter très cher. Et l'exploitation va nous coûter également très, très cher. Parce que moi, il faudrait quand même... Et c'est un peu ça qui est un peu ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas fait de compte d'exploitation sur une base de 130 élèves. Parce que ce n'est pas 200, c'est 130 toute l'année et c'est 170 pendant... 3, 4 semaines, voire 5 semaines, pas plus. Donc j'aimerais bien savoir quel est le compte d'exploitation pour 130 élèves.
Mais je crois qu'il a déjà
le restaurant scolaire...
Il a déjà été présenté par monsieur Lejean. Hein.
Non.
Il y a déjà eu des estimations qui ont été faites sur le coût des repas.
Non. Ce serait très intéressant de comparer le coût d'exploitation actuel sur une base de 500 ou 600 couverts réalisés actuellement donc au restaurant scolaire actuel et de le comparer à ce compte d'exploitation, à mon avis, qui ne doit pas être loin de l'équilibre. C'est une question que je pose.
Oui. Si vous voulez, on a fait une étude. Alors, quand on parle de quoi? Puisque c'est un peu compliqué, le restaurant scolaire. Il y a le coût direct. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on passe par un prestataire pour les repas. Donc aujourd'hui, si on fait une analytique, comme vous le souhaitez, que j'ai fait derrière, et si on garde cette logique de passer par un prestataire, le coût ne dérape pas tant que ça. En prenant les investissements, M. Bonduel, en les traitant, qui n'est pas fait dans la compta publique, mais moi je le fais, d'ailleurs, pour arriver à un coût global. Mais je suis là complètement disponible pour qu'on en discute lors d'une commission, quand tu veux, il n'y a aucun problème de ce côté-là, et à travailler ensemble là-dessus. Hein.
Non mais Pascal, vous venez de nous dire que ça ne dérape pas si fort que ça. Donc ça dérape un peu alors.
Ben, si tu analyses que tu prends un amortissement sur un bâtiment qui n'en a plus et que tu en mets sur un bâtiment nouveau, effectivement, tu as un écart de coût. Et bon, allez, je vais aller jusqu'au bout de la chose. Je vais être clair. Aujourd'hui, il y a des économies et il y a effectivement des surcoûts. Je dis bien, je répète bien ce que je vais dire pour que vous soyez clair. En comptabilité analytique, en prenant les investissements, en les amortissant, alors que ça ne se fait pas dans la comptabilité publique, donc je parle bien d'une comptabilité analytique, pour comparer ce qui existait et ce qu'il y aura demain, en prenant bien le prestataire de service aujourd'hui avec les mêmes prix, et ben je peux vous dire que l'écart est minime.
Il faut pas oublier aussi qu'on récupère du foncier à un endroit stratégique pour la commune, dont on va également trouver une utilisation, j'imagine, intéressante pour l'intérêt général. Ça doit aussi entrer dans l'équation.
Pardon, à Bels, ils ont le même cas. Ils ont une cuisine centrale qui dessert en même temps les repas à domicile et l'école.
Mmh. Voilà. Oui, je sais.
Et les repas à domicile.
On a regardé étudié toutes les solutions. Hein.
Non, mais je reste disponible et puis j'ai travaillé dessus, donc j'ai les données. Et on peut effectivement extrapoler et tout faire.
Lancement très prochain donc, de la consultation maîtrise d'œuvre. Choix du maître d'œuvre d'ici au plus tard à mi-février. Tout le process d'études, de permis de construire, de lancement d'appel d'offres entreprise et donc premier coup de pioche fin d'année pour une livraison fin 2018.
Terrain de Saint-Michel.
Oui, alors au niveau de l'achat du terrain, j'ai eu le président de l'AEP au téléphone cet après-midi. Afin de faire une délibération aussi précise que possible au niveau de notamment de la rédaction de la condition suspensive d'obtention d'un permis, il faut que le projet de Saint-Michel soit totalement élaboré. Donc dans leur projet, il y a une partie qui empiète sur le terrain que nous souhaitons donc acquérir à l'AEP. Et il y a une autre partie dans leur projet de construction qui est implantée sur le terrain qui est déjà la propriété de l'AEP. Donc je pense à la prochaine, au prochain conseil municipal, sans doute au mois de janvier, on rédigera une délibération avec une condition suspensive aussi précise que possible sur l'obtention d'un permis purgé de tout recours des tiers et du retrait administratif. Voilà la raison pour laquelle elle n'est pas à l'ordre du jour, mais en tout état de cause, ça ne retardera pas l'acquisition. Pour ce qui est... Je m'inscris en faux quand même sur ce que vous dites à propos de l'école Saint-Michel, puisque j'étais encore à la réunion de l'OGEC en début de semaine, et la directrice de l'école m'a bien souligné que pour elle, c'était un atout majeur pour plusieurs raisons, et dont une, c'est que le fait d'avoir une cantine sur le site même de l'école En tout cas, pour les tout-petits, ça permet de mieux dispatcher les horaires des enfants, de les faire éventuellement déjeuner un petit peu plus tôt et de mieux étaler l'horaire de la journée. Voilà, je voulais juste de vous donner cette précision.
Monsieur Chapelle, est-ce qu'il y a d'autres remarques ?
Oui, on parle aussi
Madame
de...
Madame Le Golvin.
Merci, monsieur le maire. Excusez-moi, je n'ai pas demandé l'accord.
C'est le règlement du conseil.
Concernant le restaurant scolaire, on parle aussi de restaurant municipal. Qu'en est-il de la Sodexo ? Est-ce que le personnel de la Sodexo... Enfin, ça va être fait en régie ? Vous avez aussi... Là-dessus, on entend plein de choses.
Alors, donc, ça reste aujourd'hui une question dont je souhaiterais d'ailleurs que les commissions s'emparent et réfléchissent. Parce que on a, dans le cadre du projet de la cantine, on a vu beaucoup d'autres cantines dans le département. Et il y a un très vaste choix possible entre la régie, entre effectivement... un prestataire de service. Et j'avoue qu'à titre personnel, je n'ai pas de religion. La seule religion que j'ai, c'est évidemment un coût supportable pour la commune que les enfants mangent le mieux possible et dans des conditions les plus satisfaisantes possibles. Donc, j'allais dire que les commissions compétentes s'emparent du sujet. Aujourd'hui, je n'ai pas de religion sur le sujet, mais il va falloir qu'on s'en fasse une et qu'on décide si d'aventure, effectivement... on choisissait un prestataire, il y a des règles dans le droit du travail qui font que le personnel actuel serait repris. Et si on fait une régie, on peut évidemment envisager aussi de travailler avec le personnel actuel si on estime qu'il est compétent pour le faire en régie. C'est le cas au foyer logement, hein, c'est une régie. C'est en interne. C'est également le cas au collège des Corrigans. Je ne sais pas quelle est la solution qui va être retenue par Saint-Michel, mais je dois dire que si on se fie aux exemples sur la commune de Carnac, la régie, ça marche pas mal. Après, voilà, ça pose aussi des problèmes parce que voilà, quid quand le chef est malade, mais en tout cas, en termes de qualité, en général, la régie, c'est pas mal. Pas d'autres questions ? Je vous propose de passer au vote. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre ? Donc, voilà, plus Madame Bagarre, puisqu'il y a un pouvoir. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Alors, Madame Thomas, Madame Karine de Déviat, est-ce qu'il y a des votes pour ? Je vous remercie, la délibération est donc adoptée. On passe à la délibération numéro 9, Monsieur Marc Albert, sur la convention pour la mise en place du compteur Gaspard. C'est un jeu de mots, j'imagine ?
Merci. C'est une convention qui a déjà été signée sur 65 communes sur le total des 78 dans la région. On avait eu des documents lors de la commission de travaux qui n'étaient pas très complets. On n'avait pas eu d'informations pour tout expliquer à la commission de travaux. Depuis, on a eu une nouvelle convention qui est arrivée avec GDF. Donc, ils nous ont choisi 13 bâtiments communaux sur lesquels ils allaient faire l'étude une fois qu'on aurait signé la convention. Et ensuite, ils nous diront combien il faudra mettre d'antennes, qui sont des antennes un petit peu plus grosses que le petit doigt et qui font à peu près 20 cm d'eau, combien d'antennes ils mettraient sur la commune de Carnac.
Est-ce que, Monsieur Marc Albert, pour que votre maire ne meure pas complètement idiot, et j'imagine aussi d'autres conseillers municipaux, à quoi servent ces petits compteurs Gaspard ?
Les compteurs Gaspard servent à relever les compteurs directement, et lorsqu'on on paye les factures sur le consommé.
D'accord. Donc le compteur de la maison envoie voilà. un signal vers ce compteur qui sera voilà. Donc réparti sur la commune et qui permet de... Voilà. C'est le Linky du gaz, en fait.
Voilà. Non, pas tout à fait. Non.
Ah bon.
Pas tout à fait. Non. C'est, alors, il y aura des concentrateurs qui seront mis sur des bâtiments communaux. Il faut savoir que dans la première convention qu'ils nous avaient donnée, ils disaient qu'une antenne prenait à peu près entre 500 et 1000 compteurs. Et coïncidence, à force de discuter avec les gens de GRDF, ils nous ont dit qu'à Nantes, il y avait une antenne qui en prenait 8000. Et la commune de Saint-Brieuc en a eu besoin que de 4 pour 80 000 habitants. Donc c'est pour ça qu'on verra bien après les études ce qui sera fait. Il faut savoir que le dédommagement pour la commune, c'est 50 euros par site pris. Il y a 10 euros d'électricité et 40 euros pour la location du bâtiment.
Et c'est sous forme de location ?
Oui, c'est une loi, hein, donc on ne peut pas le changer. J'essaie de discuter, on n'y arrive pas. Donc c'est 50 euros, il y a 10 euros d'électricité et 40 euros pour l'emplacement.
D'accord.
Alors, il faut savoir que les compteurs seront pris en charge par GRDF. Hein, c'est dans leur cadre de concession, donc ils vont changer ça. Et donc, quand les comptoirs seront installés, il y aura une impulsion d'une à deux secondes, on va dire, qui partira vers le concentrateur et qui sera fait en principe à la nuit. Donc, rapport du nombre de compteurs par rapport au concentrateur. Il y a des jours, certains compteurs auront les informations, et des jours, il y aura d'autres compteurs qui auront les informations.
D'accord.
Donc voilà, ça dure une seconde. Voilà.
Parfait. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dispositif?
Oui.
Alors, Monsieur Bonduel d'abord. Monsieur Deripper aussi avait une question, je pense. Monsieur Deripper.
Je voulais simplement préciser que les 50 euros, c'était 50 euros annuels. Hein.
Oui, d'accord. Oui.
Et que donc, comme on installait 9 concentrateurs...
Ah, j'ai jamais dit ça.
Hein?
Non,
enfin, il en était prévu 9.
Parce que vous voulez dire, c'est qu'on ne va pas s'enrichir avec ça, je suis d'accord.
C'est pas ça qui va faire vivre les finances de la commune.
C'est clair. Mais d'ailleurs, on n'y a jamais...
J'ai pas dit que c'était 9.
Ça aurait été bien, mais c'est pas le but, hein, c'est clair. C'est pas là qu'on va payer la cantine.
J'ai dit que le technicien allait venir, et une fois qu'il aurait fait ses études, il nous dirait s'il en mettait 1, 2, 3 ou 4. Ou alors pas du tout, mais il y en a au moins 1 ou 2. Mais je ne veux pas vous dire.
Je pense que la densité de l'habitat doit jouer beaucoup. Donc dans une grande ville, il y en a besoin de moins parce que l'habitat est très très dense. Je pense qu'à Carnac,
il n'y a pas du gaz partout non plus. Non. Ouais. Voilà, il faut qu'il fasse des études et après les études, nous dirons. Aujourd'hui, c'est une convention les autorisant à venir savoir comment il faut en mettre. Voilà.
Monsieur Bonduel. Ah, monsieur Verouzic.
Donc ce genre d'appareillage émet des ondes. Est-ce qu'il n'y a pas des conséquences pour les riverains?
Alors, pour le coup, je connais un petit peu le sujet, puisque je me suis penché, comme beaucoup de maires, sur l'INCI et tout ce qui est problématique de courant porteur. Alors, les ondes émises par ce type de dispositif sont extrêmement faibles, de l'ordre de 0,8 volts par mètre, ce qui est vraiment très très faible. Quand vous utilisez votre portable, vous pouvez prendre entre 6 et 8 volts par mètre, et quand vous cuisinez sur une table à induction, vous pouvez aller jusqu'à 36 volts par mètre. Donc non seulement la table à induction, c'est ce qui génère le plus d'électromagnétisme, et c'est le truc, ça se sait peu, hein, mais quand on cuisine sur une table à induction, on prend, allez vous renseigner, on prend une exposition électromagnétique énorme, c'est ce qui génère le plus d'ondes électromagnétiques. Et donc, ces dispositifs qu'on appelle CPL, non seulement ils émettent à des fréquences extrêmement basses, mais c'est et en plus c'est pendant des temps extrêmement réduits. Comme le compteur Linky, en fait, l'information passe par les fils de cuivre via un système qui est un petit peu qui ressemble à la DSL. Ça dure pour un compteur d'électricité, ça dure quelques millièmes de seconde, et pendant ce millième de seconde, le rayonnement est vraiment extrêmement faible. Donc, bon, je sais qu'il y a une légende urbaine qui se développe sur la dangerosité du compteur Linky, mais j'invite tous ceux qui ont peur du compteur Linky à surtout jeter leur téléphone mobile, jeter leur table à induction, jeter tous les appareils électriques, puisque la plupart des appareils électriques, et une télévision entre également dans ce champ, les téléviseurs émettent largement plus que 6 volts par mètre. Et donc, quand on s'approche d'un téléviseur, là aussi, on est exposé à un rayonnement électromagnétique. On sait, l'Organisation mondiale de la santé le dit, hein, que les rayonnements électromagnétiques sont cancérigènes, mais ils sont cancérigènes comme dans tout domaine lié à la toxicologie, avec un effet de seuil. Et on est là, très, très, très en dessous des effets de seuil, dans lesquels, de manière épidémiologique, on est capable de détecter une influence sur la santé humaine. Donc là aussi, c'est de la légende urbaine, ça fait peur aux gens. On se souvient quand les premiers téléphones portables sont arrivés, on parlait des tumeurs au cerveau. Il faut toujours un petit peu de recul en matière d'épidémiologie, mais là, on est vraiment sur des expositions qui sont extrêmement faibles.
Seulement, on rajoute des couches supplémentaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer? Évidemment, les portables, ça sert quand même pas mal.
À Carnac, ce qui rayonne le plus, c'est peut-être 1000 fois plus que les compteurs Gaspard, c'est l'antenne des pompiers, par exemple. Ça a un rayonnement électromagnétique énorme, beaucoup plus important que tous les dispositifs électromagnétiques portables. Et donc, l'exposition, il y a des intolérants hein, au rayonnement. Là aussi, même si, d'un point de vue scientifique, on a du mal à être définitif sur la réalité de ces pathologies. Mais en tout cas, oui, tous les jours, on est exposé à un rayonnement électromagnétique dans sa voiture, là, devant ce micro. Tous les appareils électriques génèrent un champ électromagnétique. Et c'est vrai que dans notre vie quotidienne, on en utilise de plus en plus. Mais vraiment, ça, c'est l'épaisseur du trait, voire même moins.
OK. Bon, je vous remercie.
Je vous en prie. On va pouvoir passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Monsieur Bonduel s'abstient. Et donc, le reste, c'est des votes positifs. Je vous remercie. On passe au rapport numéro 10. Monsieur Marc Albert, toujours, sur la convention de servitude de passage sur la parcelle AM101 de l'allée des Guémons. Micro.
Excusez-moi. Sur le terrain de Guémont, il y a Orange qui a une antenne téléphonique. Et du coup, la nouvelle loi impose à tous les opérateurs de se séparer, de ne pas envoyer les ondes d'un vers l'autre avec la même antenne. Donc, SFR est obligé de se mettre une antenne sur le même poteau, d'ailleurs. Et du coup, il est obligé de se fournir l'électricité tout seul avec son compteur privé, si on veut. Donc, GRDF nous demande l'autorisation de passer un câble qui ira de la voirie communale jusqu'au poteau pour alimenter l'antenne SFR pour que tout le monde puisse capter un petit peu mieux à la plage. Et à l'époque, donc, c'était Orange qui réceptionnait les communications de Orange et de SFR. Ils avaient un contrat entre eux qui doit s'arrêter, je crois, fin 2018, donc ils sont obligés de se séparer.
Voilà. Encore du rayonnement électromagnétique?
Non, c'est le même qui, oui, il y en aura un petit peu plus aussi, mais bon, voilà. Il n'y a pas que le soleil qui rayonne.
Oui, tout à fait.
Oui, c'est souterrain, oui, oui. Tous les réseaux nouveaux sont toujours souterrains maintenant. Hein. Voilà. On s'est aperçu que depuis plusieurs années, on avait la voirie qui était faite route du Linestrec et ces voiries étaient toujours du domaine privé communal. Donc on va le repasser en domaine public communal de façon que les voiries soient comme toutes les voiries de Carnac, communales avec le domaine public communal. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a le plan qui est affiché. Il y a deux. Non, c'est pas celui-là. Ouais, c'est le plan du câble. Ouais. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Donc, il y a devant les tennis, là où on garde les voitures actuellement, qui était du domaine privé communal. Et puis, il y a également devant les pompiers où la clôture a déjà été faite. Et donc, il y a une partie de la voirie, là où il y a le cheminement piéton, qui est un domaine public, domaine privé communal qui va passer en domaine public communal. Voilà. Ça ne change rien, c'est juste. On change ça reste toujours la commune, mais différemment. Voilà.
Sur ce rapport, pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport numéro 12, toujours Monsieur Marc Albert, la diminution de voies à Penerlan.
Donc vous savez que la route du Han est très très longue, qui commence au Menhir, au Ménec, et qui va jusqu'au au bout là-bas, hein. Fontainebleau, voilà, pardon, merci, à Fontainebleau, et donc il est très très compliqué d'arriver à tout numéroter avec toutes les parcelles qui sont le long de la voirie. Donc on a décidé, comme le Haon est de l'autre côté du rond-point du Haon, on a décidé de changer le nom de la première partie de la voirie de la route du Haon. On a envoyé un courrier à tous les gens qui habitent dans cette rue, personne ne nous a rien dit, personne n'est contre, donc on va appeler ça Penerlan, la tête de lande, donc ça nous permettra justement de renuméroter toutes les parcelles après le rond-point du Han jusqu'à Fontainebleau. Donc voilà.
Marc, sur ce choix, tête de la lande, c'est ça?
Tête de lande. Tête de lande. Alors on peut écrire avec un N, avec deux N, mais bon, on a décidé d'écrire avec un N.
Oui, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des débats sur l'orthographe.
Oui, oui, oui. On peut l'écrire à plusieurs façons, comme il y avait deux N à l'Inde.
Est-ce qu'on a des bretonnants autour de cette table?
Ouais, le bout, la tête, ça dépend. Ouais. Je ne sais pas comment ça se traduit après.
Carlan, ça s'écrit avec deux N, de toute façon. Ouais. Non. T'es pas bretonnante, mais on a des habitants de Carlan. C'est encore pire. Donc, pas de remarques sur ce rapport? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe donc maintenant au rapport numéro 13, le déclassement de la parcelle BH153 rue des Corrigans, toujours Monsieur Marc-Albert, et c'est la dernière pour ce qui vous concerne.
C'est une petite parcelle qui fait sur le cadastre 25 mètres carrés et qui, peut-être sur le terrain, après les alignements qui n'ont pas été mis à jour, qui doit faire à peu près entre 11 et 12 mètres carrés. Donc il y a une personne qui a acheté le terrain 495 pour construire sa maison et sur son plan de construction, l'entrée est juste devant à la parcelle 153. Donc on va faire comme au Nil-Estrec, on va déclasser ce morceau de parcelle qui est dans le domaine privé communal pour le faire passer dans le domaine public communal, donc ça restera toujours à nous. Le monsieur mettra son portail à la limite de sa parcelle à la 495, et donc pour 11 mètres carrés, on avait parlé éventuellement de le lui vendre à 20 euros le mètre carré. Il y avait plus de 1000 euros, 1200 euros de frais pour 200 euros de terrain, donc on a dit, bon, il ne faut pas non plus exagérer, donc ça reste à la commune, au lieu de le vendre, ça reste à la commune, ça ne change rien. Ouais.
Ok, parfait. Il y a des questions sur ce déclassement de parcelle? Pas de questions? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean, la transmission des actes soumis au contrôle de légalité, extension aux documents de la commande publique.
Donc il est effectivement aujourd'hui d'approuver une extension de la convention relative à la transmission électronique des actes au contrôle de légalité et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer la convention correspondante. Donc la convention en existe, c'est une demande de la préfecture, une obligation. Donc on est obligé d'avoir une extension de la convention.
Rapport à une délibération extrêmement technique. J'imagine qu'il n'y a pas de questions ou de remarques sur cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe à la délibération numéro 15, qui est le plan de formation 2017-2019 de la commune. Monsieur Chapelle.
Alors, le plan de formation, pour ceux qui l'ignorent, est obligatoire depuis 2007. Cependant, il n'y en a jamais eu sur le territoire de la commune. Donc, il était temps d'en mettre un en place. L'objet, c'est vraiment de pouvoir planifier les formations de tous les agents dans un souci d'organisation autant temporelle qu'en termes de besoins. Je pense que ce sera un très bon outil qui permettra aussi de gérer les formations des agents en fonction des besoins et de la commande politique qu'il peut y avoir sur tel ou tel domaine de compétences requises. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Deripa?
Est-ce qu'on a une idée du coût globale d'une telle formation?
Alors, la plupart des formations qui sont là, ce sont des formations, sauf erreur, je vais peut-être laisser la parole à Philippe, mais qui, dans le cadre du CNFPT, donc, qui sont dans le cadre de la formation obligatoire. Donc,
pour le coup, je ne sais pas, Philippe, on a une...
Voilà, donc c'est une partie de cette somme-là qui est affectée à ce plan de formation.
Pas d'autres questions? Je vous remercie. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. On passe au rapport suivant, qui est donc le rapport numéro 16. À savoir la modification du tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2017, toujours Monsieur Chapelle.
Voilà, donc vous avez tous étudié, je pense, le tableau des effectifs. Alors là, je crois que c'était d'ailleurs une demande en partie de Monsieur de Ripper, n'est-ce pas, d'avoir un tableau des effectifs qui correspond au compte administratif, donc ce sera plus lisible pour tout le monde, en effet. Donc vous l'avez là sous les yeux, et maintenant on pourra comparer ce qui est comparable d'année en année, l'emploi équivalent temps plein d'une année sur l'autre.
Est-ce qu'il y a des... Monsieur Taripa?
Oui, justement, sur ce tableau et par rapport au compte administratif. Sur le compte administratif fin 2015, nous avons deux attachés principaux dans la filière administrative. Et à l'heure actuelle, on n'en retrouve plus qu'un, qui est devenu le deuxième.
On a supprimé le poste. Il est en disponibilité, cet agent. C'était Monsieur Xavier Robert.
Il est en disponibilité, c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il a demandé, enfin, on l'avait On l'avait évoqué en conseil municipal, il a demandé une disponibilité de 2 ans pour aller créer une entreprise, comme la loi lui permet.
Mais auparavant il apparaissait dans les emplois fonctionnels.
Oui, aussi.
Ah, il apparaît à la fois dans les emplois fonctionnels et comme attaché principal.
Merveilleuse subtilité des collectivités territoriales.
Ça m'étonne, ça.
Oui. D'accord. Donc ça veut dire que ce qui figure dans les emplois fonctionnels, en fait, ne fait pas partie, même si on a un chiffre qui est indiqué, il n'est pas cumulable avec le reste des effectifs. C'est ça ? D'accord.
À titre personnel, je continue de découvrir les subtilités de la chose. C'est extrêmement compliqué.
Non, ce qui est important, c'est d'avoir un outil qui permettra de comparer tous les ans et de faire des observations éventuelles.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres observations, Madame Le Golvin ?
Oui, Monsieur le maire, dans ces cas-là, dans les emplois fonctionnels, comment sait-il que dans les emplois pourvus aujourd'hui, on est à 0 sur le tableau ?
À quel endroit ?
La première colonne. Pardon ?
Parce que le DGS actuel n'est pas détaché sur un emploi fonctionnel. Ça n'a pas été son choix.
Quand vous présentez, en fait, donc, puisque la DGS, enfin, moi, je mets des noms en face, hein, je pense que là, s'il vous plaît, oui, mais DGS, vous citez à chaque fois ou pendant les vœux, comme ça, tout le monde est au courant, c'est, vous dites Madame Delphine Michard, DGS, vous dites Monsieur Charpentier, DGS adjoint, et Madame Euseb, directeur des services techniques.
Ça, c'est une fonction, c'est pas la même chose.
Tableau des effectifs des emplois permanents communes de Carnac.
Tout à fait. Alors, quand vous avez un DGS, vous avez la possibilité de le détacher sur un emploi fonctionnel, qui est un statut beaucoup plus précaire, qui peut être choisi par l'agent et qui peut permettre d'ailleurs de mieux le rémunérer ou d'avoir une rémunération différente. Ça a été le choix de Xavier Robert, ça a été le choix d'un certain nombre de DGS, mais ce n'est pas une obligation et c'est au choix de l'agent.
Donc si je peux, parce que je veux comprendre, attaché principal, on peut penser que c'est ce qui correspond au DGS actuel, c'est ça. Mm-hmm. Attaché, ça pourrait être le DGS adjoint.
Oui.
D'accord.
Ça peut être aussi un DGS.
Et notre ingénieur, ça pourrait correspondre au directeur des services techniques.
Par exemple.
Est-ce qu'on pourra avoir un tableau, vous savez, vous nous l'avez déjà fait en 2013 et en 2015, le tableau avec justement tous les emplois par filière ou par service et avec les grades et emplois à côté, parce que pour nous c'est difficile en fait, quand on n'arrive pas à mettre des noms.
Ah, c'est difficile pour tout le monde, Madame Le Golvin. Je vais moi-même.
Oui, mais il y avait déjà un tableau qui nous avait été remis, il n'y a plus qu'à le mettre à jour.
C'est l'organigramme, vous voulez dire ?
Oui, l'organigramme, oui. Et puis qu'on puisse avoir justement en face les grades ou emplois, parce que c'est...
Pas de problème.
On a une lecture quand même plus rapide.
OK.
D'accord. Merci.
D'autres remarques sur ce tableau des effectifs ?
Il y avait une autre décision.
D'accord. Allez-y, monsieur Chapelle.
Voilà, il y avait un changement de grade d'un agent, c'est-à-dire qui entraîne la suppression, qui passe donc d'emploi d'adjoint d'animation de deuxième classe à un emploi d'animateur territorial. Alors pourquoi ce changement ? Tout simplement parce que cet agent-là remplissait déjà les fonctions d'animateur territorial dont les contraintes administratives font qu'on doit le nommer à ce poste. Voilà. Il n'y a pas d'incidence financière particulière. Vous voyez une phrase qui concerne la délibération du 20 novembre 2002 sur le régime indemnitaire. Donc ça aussi, c'est une obligation légale de faire paraître cette phrase. C'est tout.
OK.
C'est fini pour moi.
On peut passer donc au vote sur sa modification du tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2017. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Toujours Monsieur Chapelle, rapport numéro 17, prolongation d'un emploi d'avenir en 2017-2018.
Ça, c'était plutôt Loïc. Non ?
C'est plutôt Loïc ?
Non.
Moi, j'avais, c'est marqué Paul Chapelle sur ma feuille.
Ah oui, non.
Loïc, tu le prends ?
Oui.
Loïc. Loïc a moins travaillé, donc...
Je vais m'y mettre. Donc, on a depuis plusieurs années un emploi d'avenir au niveau du pôle éducation jeunesse. qui permet de former une personne. Et donc pour l'année 2016, le conseil municipal avait autorisé la signature d'un contrat d'avenir à raison de 35 heures par semaine. Il s'avère que la personne qui est recrutée sur des missions polyvalentes, c'est-à-dire à la fois sur le terrain pour une mission d'animation et également en mairie sur du travail administratif, donne satisfaction aussi bien dans la première fonction que dans la deuxième. Que ça nous permet d'avoir moins recours à du personnel, à des intervenants ponctuels. Et en plus, la mission locale a accepté d'accorder une participation financière pour les deux prochaines années, sachant qu'on est très aidé sur ce genre d'emploi. Et donc, la proposition qui est faite, donc, c'est de prolonger ce contrat d'avenir pour une période donc, allant du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018.
Alors, est-ce qu'il y a des remarques, Madame Le Gollon?
Non, c'est juste une question. Tous les ans, en fait, on doit valider en conseil municipal le fait de le... Parce que c'est 3 ans, donc on a déjà présenté un bordereau pour cette personne. Là, on représente et l'année prochaine, on va revoter encore? Non? Ah. Oui, c'était notifié qu'on pouvait aller jusqu'à 3 ans, donc on d'accord. D'accord.
D'autres questions? Pas d'autres questions sur ce rapport. Donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport 18, toujours Monsieur Houdois, sur l'avenant du contrat CAF 2016-2018.
Alors là, c'est un petit peu technique, mais en fait, on a donc l'ensemble des activités qui sont proposées pour les enfants de 0 à 17 ans. Font l'objet d'une convention avec la CAF, donc la Caisse d'allocation familiale, qui nous permet de bénéficier d'une aide à hauteur de 55% des activités qui sont proposées. Nous, donc quand je dis nous, c'est Carnac, Plouarnel, La Trinité, puisque sur l'ensemble des activités, on fonctionne avec les 3 communes. On avait un contrat qui durait donc, pour les années 2012 jusqu'à fin 2015. Il se trouve que Auray-Quiberon Terre Atlantique a signé un contrat enfant-jeunesse avec la CAF à compter du 1er janvier 2015 et donc jusqu'au 31 décembre 2018. Notre contrat étant encore actif, la proposition qui vous est faite, c'est en fait de faire un avenant au contrat signé par ACTA pour donc intégrer le contrat signé par ACTA avec la CAF donc pour les années restantes, à savoir de 2016 à 2018.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Pas de questions? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. L'ordre du jour donc, du conseil municipal est donc épuisé et nous avons une question orale de M. De Ripa.
Ouais, concernant la convention qui a été signée avec le Yacht Club de Carnac, puisqu'il y a eu une assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu au mois d'août, une convention qui a été signée avec une modification de la gouvernance du Yacht Club. Donc je voulais savoir exactement ce qu'il en était à l'heure actuelle, en particulier en ce qui concerne le loyer, puisque la Chambre des comptes, la Cour des comptes avait demandé à ce qu'il y ait un loyer soit mis en place pour la location du bâtiment. Il devait y avoir aussi une modification de la gouvernance dans la mesure où la municipalité était représentée par 2 représentants qui avaient eu droit au vote, alors qu'auparavant ce n'était pas le cas. Donc je voulais savoir si les représentants étaient toujours les mêmes, si ça avait été modifié. Et s'il y avait dans le cadre de cette convention des investissements qui étaient prévus pour l'année 2017.
Alors, je vais répondre à vos questions. Première question, il est tout à fait exact que nous allons fixer un loyer au Yacht Club suite à la remarque de la Cour régionale des comptes. Nous avons sollicité France Domaine il y a quelques longues semaines pour qu'ils fassent une estimation éventuelle de ce loyer. Et France Domaine est revenu vers nous il y a quelques jours avec une réponse un petit peu étrange en nous disant qu'il n'était pas compétent pour le faire. Donc on va procéder, je ne sais pas à qui d'ailleurs, on va essayer de trouver un certain nombre de... Comment ? Oui, ou Monsieur de Ripper, d'ailleurs, si ça vous intéresse de travailler sur la question, je suis tout à fait ouvert. Il faut qu'on fixe, en allant chercher évidemment des précédents et des comparables, il faut qu'on détermine le prix d'un loyer pour le yacht club, sachant qu'évidemment il y aura un arbitrage à faire entre les capacités financières du yacht club, la réalité de l'entretien du bâtiment et surtout, c'était l'objet aussi de travail qu'a mené Monsieur Chapelle. Depuis avant l'été, c'est de savoir exactement qui fait quoi et qui paye quoi, parce qu'on avait en permanence des questions sur les dépenses liées à l'entretien du bâtiment. Je prends pour exemple les extincteurs, par exemple. Voilà, le club faisait payer ça à la mairie, alors qu'en fait, c'est plutôt à la charge du locataire. Donc, c'est en cours, mais ce n'a pas encore été fait. Pour ce qui concerne la deuxième partie, à savoir les représentants du yacht club, il faudra effectivement, et c'est une bonne remarque, que nous passions une délibération en conseil municipal pour effectuer les modifications des représentants au yacht club. Et donc, je pense que lors du prochain conseil municipal, cette délibération sera soumise au conseil municipal. Et donc, s'il y a des candidats, évidemment, ils auront l'occasion de se manifester à ce moment-là. Troisième chose pour les travaux, c'est un chantier à l'image un petit peu de celui du musée que nous allons devoir ouvrir, parce que ce sont deux infrastructures stratégiques pour la commune qui sont dans un état pas forcément optimal. Et bien que ces deux dossiers n'étaient pas dans le programme de la majorité municipale, il va falloir qu'on s'y penche, parce que ce sont deux dossiers qui sont emblématiques et qui peuvent générer des coûts effectivement très très importants. Aujourd'hui, des coûts qui ne sont pas dans le PPI de la commune, clairement. C'est aussi des dossiers dans lesquels il va falloir aller à la pêche aux subventions, parce que c'est des dossiers qui sont potentiellement très subventionnables. Celui du Yacht Club est potentiellement subventionnable par l'Union européenne, notamment, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il y a également une réflexion à mener avec l'intercommunalité, puisque aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu, je dirais, hétérogène sur le territoire, puisqu'il y a des clubs de voile qui étaient intercommunaux, qui ont donc basculé à ACTA, d'autres qui ne l'étaient pas comme le nôtre et qui restent communaux. Donc là aussi, il y aura peut-être un jour un travail d'homogénéisation, mais en tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est que avec cette nouvelle gouvernance et notamment le fait qu'il y ait deux représentants de la commune au conseil d'administration du yacht club, on puisse travailler dans la concertation et sereinement. Mais bon, voilà, c'est pas donné, et surtout ça va être un dossier assez long et compliqué à mener, parce qu'il va falloir, si on veut faire quelque chose, trouver un maximum de subventions pour pouvoir financer ces travaux. La remise en état simplement de, et je sais que la municipalité précédente avait fait faire un certain nombre d'estimations, hein, qui je pense sont toujours valables aujourd'hui, l'unité de coût là, c'est le million d'euros, ne serait-ce que pour remettre en état la partie inférieure des cales, dans lequel aujourd'hui 1,5 million, dans lequel l'eau s'engouffre et à chaque tempête abîme, et un jour il va falloir, c'est pour ça qu'il ne faudra pas attendre des années et des années, même si c'est des dossiers sur lesquels cette municipalité comme d'autres a un petit peu reculé, parce que c'est vrai que c'est des énormes montants et il n'en reste pas moins qu'il faudra le faire, parce que c'est un outil qui est absolument indispensable à l'attractivité de la commune. Donc voilà où on en est, et encore une fois, si ça vous intéresse de vous pencher sur la problématique détermination du loyer pour le yacht club, je vous invite à le faire. Mais on le fera de toute façon. Hein, donc.
Je vous remercie de cette peau de banane.
C'était Madame Michard qui l'a proposé. C'est vrai.
C'est pas moi, c'est l'autre.
Un peu d'humour, monsieur Deripin. Ok, le pardon. Ah, c'était de l'humour. Pardon, excusez-moi. Donc l'ordre du jour du conseil municipal étant épuisé. Ah, monsieur.
Mais c'est d'ordre technique et pour Carnac. Hein.
Allez-y.
On me signale simplement qu'il n'y a plus d'éclairage boulevard de la Plage, parce que peut-être monsieur Chapelle pourra répondre, et également au Castellic.
D'accord.
Je ne sais pas, est-ce que vous avez une réponse? Qu'est-ce qui se passe?
Monsieur Marc Albert.
On a des problèmes techniques avec EDF qui n'arrive pas à remettre les câbles qui ont été abîmés, même sous terre, donc ils sont en train de travailler dessus. Je sais que c'est un peu long, il y a un moment que ça dure, mais on ne peut pas aller plus vite que la machine, malheureusement. Mais on est au courant, ça suit son cours, mais pas toujours facile. Pour rappeler, on a eu un problème électrique aussi derrière l'office du tourisme, on est passé du temps, parce que justement, EDF n'avait pas les pièces, c'était des vieux appareils qui étaient là. On n'a pas mis pas mal de temps à réparer, mais bon, c'est en cours. Merci.
Qu'est-ce que tu fais ? Attends, dans 20 secondes, c'est fini. Il n'y a pas l'éclairage sur la tour. Parfait. Le conseil municipal est maintenant clos. Simplement une petite précision, s'il vous plaît, et elle est d'importance. J'aimerais que vous cochiez dans vos agendas la possibilité, je dis bien la possibilité, de tenir un conseil municipal vendredi prochain à 18h30, même lieu, même endroit. Et l'objet de ce conseil municipal, dont il n'est pas encore certain qu'il se tienne, sera la compétence tourisme, et notamment la possibilité, comme la loi nous le permet depuis aujourd'hui, de conserver cette compétence dans le giron de la commune. À vendredi prochain, peut-être. Merci beaucoup.